Maintenant, nous parlera l'abbé de la Roque, qui est professeur au séminaire de Flavigny, et c'est lui qui est le promoteur de cette initiative de la lettre à nos amis prêtres. Une lettre qui est envoyée donc à tous les prêtres français, qui a suscité beaucoup d'intérêt. On ne peut pas parler de fruits proprement dit, mais certainement de prémices pour un futur, je crois, une œuvre qui pourrait être très intéressante. Alors je lui laisse maintenant la parole.
C'est à moi qu'il revient de vous bercer après l'excellent repas que nous avons eu. Pour vous parler d'un sujet quelque peu délicat, à l'heure où Jean-Paul II réclame des théologiens les formes nouvelles que pourrait prendre le ministère pétrinien, il peut en effet paraître incongru d'aborder au sein de ce congrès la question de la papauté. Tout d'abord parce que je ne suis nullement théologien, et ensuite parce que notre but ici n'est pas de trouver l'une de ces formes nouvelles que pourrait prendre la papauté au XXIe siècle. Pourtant, je crois ce sujet incontournable ici, car cette même papauté court, à vue humaine, des risques importants dans les décennies à venir. Le risque principal qui retiendra ici notre attention est celui de la synodalité. Du mot de synode, la synodalité qui vient détrôner, remplacer la collégialité avancée par le Concile Vatican II. Je ne vous ferai pas un vaste exposé théologique, l'heure n'y est pas propice, il faudrait plus de temps, mais j'aimerais simplement remonter aux sources du mal en regardant comment les modernes en sont venus à élaborer cette thèse de la synodalité. C'est donc beaucoup plus un regard historique que nous aurons destiné à poser le problème. Je commencerai mon propos par un simple constat. Le développement considérable que la diplomatie pontificale a eu au cours du XXe siècle. En 1901, l'Église avait 4 ambassades. De ces 4, 2 seront d'ailleurs supprimées par Saint-Pie X. En 1999, il y a 173 pays qui ont des relations établies avec le Saint-Siège. Le tournant a été pris avec Benoît XV, lui-même diplomate, qui a lancé cette ère nouvelle des relations instituées, puis Pie XI, Paul VI et Jean-Paul II ont beaucoup développé ces relations. À regarder les chiffres, on pourrait penser que cette évolution est normale, régulière, mais il n'en est rien. Vous savez qu'un tournant capital a été pris dans les années 60. Jusque-là, la diplomatie pontificale était très clairement définie par la défense du droit public de l'Église. Benoît XV, l'instigateur de ses relations diplomatiques, l'écrira. Aux nations unies dans une ligue fondée sur la loi chrétienne, l'Église sera fidèle à apporter son concours. Aux nations unies dans une ligue fondée sur la loi chrétienne. Et Pie XI reprendra l'idée en dénonçant la toute jeune Société des Nations incapable d'incarner cette nouvelle chrétienté. Arriva le Concile Vatican II qui, en se tournant vers l'homme, a prétendu christianiser la Déclaration universelle des droits de l'homme en la fondant sur le soi-disant droit à la liberté religieuse. Je n'insiste pas sur cet aspect des choses, M. l'abbé de Cacret nous l'a développé ce matin. Mais à partir de ce moment-là, le fondement de la diplomatie ne fut plus le droit public de l'Église, mais la promotion de la Charte universelle des droits de l'homme et de son esprit. Citons simplement Jean-Paul II, lors de sa première visite au siège de l'ONU, quelques mois après son élévation au souverain pontificat. Le chemin réel, le chemin fondamental qui conduit à l'union des États passe par la définition, la reconnaissance, le respect des droits inaliénables des personnes, des communautés et des peuples. Le principe est posé. Désormais, celui dont on attend la paix n'est plus le Christ, prince de la paix, mais c'est l'homme dans la reconnaissance de ses droits fondamentaux. Beaucoup plus qu'un changement de diplomatie, c'est en fait un changement d'objectif que s'est assigné l'Église. Juste après le Concile, en 1967, a eu lieu la réforme de la Curie qui a placé au premier plan la secrétairie d'État en charge de la diplomatie pontificale. Et ce, au détriment du Saint-Office et de la consistoriale, ces deux congrégations qui avaient pour but la défense de la foi, le Saint-Office, et sa propagation à travers le genre humain, la consistoriale. Ce ne sont plus les premières congrégations, c'est la secrétairie d'État. Le Saint-Siège s'est fixé un nouvel objectif. Que vient confirmer le pontificat de Jean-Paul II avec ses 90 voyages hors de l'Italie, ses différentes rencontres avec les chefs d'État, nous révèle un nouveau type de papauté. Une papauté itinérante dont l'activité devenue planétaire est en majeure partie tournée vers un idéal humanitaire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de découvrir le fondement doctrinal de ces changements d'attitude. À la suite de Lubac, entre autres, beaucoup, dont Jean-Paul II, ont identifié l'édification de la paix dans le monde à la bonne nouvelle apportée par le Christ. Le Christ est venu révéler l'homme à lui-même. Le Christ a assumé dans sa nature chacune de nos personnes individuelles. Le Christ, dans son incarnation, a donc fondé une fraternité universelle entre tous les hommes. Et l'incarnation du Christ consistait, d'après ces théologiens, à fonder dans le Christ cette fraternité universelle entre tous les hommes, cette paix dans le monde. Dès lors, la promotion de la paix dans le monde va s'identifier quelque peu avec la nouvelle évangélisation, terme si cher à Jean-Paul II. Lisons quelques textes. Concernant la mission du Christ, voilà ce qu'écrira Jean-Paul II dans son encyclique « Utunum Sint ». L'unité de l'humanité déchirée est voulue par Dieu. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin que, mourant et ressuscitant pour nous, il nous donne son esprit d'amour. Résumé du mystère de l'incarnation rédemptrice chez Jean-Paul II. L'Église, donc, est là pour perpétuer cette mission du Christ. En cette année jubilaire, texte prononcé par Jean-Paul II le 1er janvier de cette année, en cette année jubilaire, l'Église veut confirmer sa vocation et sa mission d'être dans le Christ sacrement, c'est-à-dire signe et instrument de la paix dans le monde et pour le monde. Pour l'Église, remplir sa mission évangélisatrice, c'est travailler pour la paix. Identification de la nouvelle évangélisation et de la promotion de la paix. L'engagement à édifier la paix et la justice n'est pas secondaire pour les catholiques, mais essentiel. Et rappelons-le, la promotion de cette paix est fondée sur le respect de la dignité de la personne humaine défendue par ses droits. Dans ce même passage, ce même discours, Jean-Paul II continue, « Il y aura la paix dans la mesure où toute l'humanité saura redécouvrir sa vocation originelle à être une unique famille, où la dignité et les droits des personnes, quel que soit leur état, leur race ou leur religion, soient affirmés comme antérieurs et prééminents à toute différenciation, à toute spécification. La loi suprême de la paix dans le monde est cette défense des droits de la personne, principe suprême de l'activité pontificale. Cette attitude, ces discours de Jean-Paul II trouvent leur fondement dès les premières lignes du Concile Vatican II, qui a posé comme principe de l'ecclésiologie la notion de communion et de sacrement. À la base de cette notion, la fraternité universelle, soi-disant voulue par Dieu. Je vous cite donc Gaudium et Spes, au numéro 24. « Dieu qui veille paternellement sur tous a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuellement en frères. » Nous sommes bien loin des paroles de notre Seigneur en saint Matthieu au chapitre 10. « Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Non. Pour nos modernes, Dieu veut la fraternité entre tous les hommes. Communion, donc, universelle, basée sur la dignité transcendantale de la personne humaine, cela est aussi affirmé par le Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au numéro 3, avec le fameux germe divin présent en tout homme, germe divin non défini. De cette communion universelle, l'Église catholique doit être sacrement. Sacrement, c'est-à-dire instrument et signe. Elle va promouvoir cette fraternité universelle par le dialogue interreligieux, défini par la recherche de la paix dans le monde. Elle va être signe de cette unité grâce au dialogue œcuménique. Le dialogue œcuménique va être là pour que les églises chrétiennes soient la manifestation de la possibilité de cette unité, de cette communion. L'Église va donc être à la fois instrument et signe de l'unité du genre humain, c'est-à-dire, pour les modernes, sacrement. On voit donc comment, dans la suite logique de Vatican II, Jean-Paul II a posé la défense et la promotion de la liberté religieuse avant même la défense et la promotion de la foi. Autrement dit, la clé est importante, il a délaissé sa fonction magistérielle au profit de la nouvelle évangélisation. Nous nous devons, avec les modernes, de distinguer la fonction magistérielle de la nouvelle évangélisation. Ce sont deux domaines entièrement différents qui ont des caractéristiques très distinctes. La fonction magistérielle est finalisée par le bien propre de l'Église. La constitution plénière, la réalisation plénière de son être, par l'agrégation des âmes. La fonction magistérielle a pour objet, donc, la foi dans la défense et la propagation de la foi d'une foi vivante. La fonction magistérielle s'exerce percée en elle-même sur les membres de l'Église. C'est eux qu'elle va obliger. Elle ne s'adresse que per accidens aux non-catholiques, en ce sens que ce discours d'enseignement sera une invitation pour eux à la conversion vers la vérité. Cette fonction magistérielle enseigne avec autorité, parce qu'elle se rappelle de la parole du Christ « Qui vous écoute, m'écoute ». Et donc la fonction magistérielle oblige, elle enseigne en maîtresse. Tout cela ne peut pas être dit de la nouvelle évangélisation. La nouvelle évangélisation n'est pas finalisée par le bien propre de l'Église. La nouvelle évangélisation est finalisée par la paix dans le monde. Nous l'avons vu tout à l'heure. La nouvelle évangélisation a donc pour objet, non pas la foi, mais la promotion des droits de la personne humaine qui sont antérieurs à la foi, d'après Jean-Paul II. La nouvelle évangélisation s'adresse donc à tous les hommes indistinctement et non pas, premièrement, aux catholiques à elle soumise. Et donc, cette nouvelle évangélisation ne peut pas et ne veut pas utiliser un langage d'autorité. Elle rappelle constamment que cette soi-disant vérité a sa force de conviction en elle-même et que cette vérité sur l'homme, soi-disant, s'imposera à une conscience droite par elle-même. Aussi, la nouvelle évangélisation se contente-t-elle de proposer son message indistinctement à tous les hommes. Il y aurait là une véritable analyse terminologique à faire des encycliques de Jean-Paul II. Donc vous voyez, distinction très importante entre d'une part la fonction magistérielle et d'autre part tout ce qui va relever de la nouvelle évangélisation. La fonction magistérielle est finie par le bien propre de l'Église, nouvelle évangélisation par la paix dans le monde. La fonction magistérielle a pour objet la foi, la nouvelle évangélisation, la promotion des droits de la personne humaine antérieure à la foi. La fonction magistérielle s'applique premièrement et formellement sur les membres de l'Église, la nouvelle évangélisation s'applique premièrement ad extra. La fonction magistérielle enseigne avec autorité, par définition, la nouvelle évangélisation propose. Cette distinction me paraît importante. Importante pour nous-mêmes, d'abord, afin de ne pas mettre une note magistérielle à des textes qui n'ont pas cette note magistérielle. Importante également sa distinction parce qu'elle met en évidence la déformation grave qu'a subie l'exercice du gouvernement pontifical au cours de ces dernières décennies. Ayant opté résolument pour la nouvelle évangélisation, la papauté a délaissé d'autant, dans les faits, comme dans sa constitution, sa tâche première qui réside dans la garde et l'expansion du dépôt de la foi. En rien, le primat juridictionnel du pape n'a été contredit. Jusque-là, il a tout simplement été délaissé. On a bâti à côté, de main d'homme, une nouvelle dimension de la papauté. Celle-ci, loin d'exercer son primat, finalisé par la défense, l'expansion du dépôt révélé, cherche à s'établir comme la conscience morale de l'humanité, au profit de l'unité de ce même genre humain. Son arme n'est plus l'autorité magistérielle, mais le charisme médiatique. On ne considère plus le pape comme le vicaire du Christ. Jean-Paul II s'est défendu de cette expression, mais comme le leader de l'humanité à l'état pur. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont du cardinal Etchegaray, dans une conférence qu'il a donnée à Gênes il y a à peine quelques mois. C'est dans ce contexte historique et théologique que la thèse de la synodalité va prendre tout son sens. Nous l'avons dit, l'Église moderne s'est définie comme sacrement de l'unité du genre humain. Notion de sacrement très chère aux modernes. Vous avez entendu ce matin le Père Emmanuel Marie faire appel en matière d'exégèse. N'entendez pas ce mot tel que votre catéchisme vous l'a défini. Il y a une connotation toute particulière pour les modernes. Une théologie entière a été rebâtie. Trois caractéristiques à cette notion. Le sacrement chez les modernes est un instrument, c'est un signe, et enfin, c'est quelque chose qui contient en lui-même la réalité signifiée. Je passe sur les détails théologiques. Retenons de ces caractéristiques très simples, très faciles. La sacramentalité est à la fois moyen, instrument et signe. Cette sacramentalité, les modernes vont l'appliquer à différents niveaux. Le dialogue religieux, le dialogue interreligieux, tout d'abord, va être sacrement de l'unité du genre humain. Nous l'avons déjà plus ou moins dit, par la promotion du dialogue interreligieux, elle va avoir pour but cette unité. Et ce dialogue lui-même est le signe de cette unité du genre humain. Vous avez le texte que Jean-Paul II prononça devant les cardinaux pour justifier la réunion d'assises en 1986. En cette journée, dans la prière qui en était le motif et le contenu, semblait s'exprimer pour un instant, même de manière visible, l'unité cachée mais radicale que le Verbe divin a établie entre les hommes. Le dialogue interreligieux, ces réunions interreligieuses, sont là pour être sacrement de l'unité du genre humain. Elles sont sacrements parce qu'elles sont signes. Elles vont être sacrements parce qu'elles seront moyens. À Rome, en octobre dernier, Jean-Paul II l'a rappelé aux chefs des différentes religions représentées lors de la réunion interreligieuse qui se tint sur la place Saint-Pierre. Je cite un extrait de son intervention. « J'ai toujours considéré que les chefs religieux jouaient un rôle vital pour alimenter l'espérance de justice et de paix. En tant qu'homme religieux, il est de notre devoir de démontrer que la religion et la paix vont de pair. Les chefs religieux doivent clairement montrer qu'ils s'engagent à promouvoir la paix précisément en vertu de leurs croyances religieuses. Le dialogue interreligieux sera donc moyen de la promotion de cette paix dans le monde. » Donc, premier échelon, dialogue interreligieux, sacrement de l'unité du genre humain. Deuxième échelon, un degré en dessous, l'œcuménisme va être le sacrement du dialogue interreligieux. La promotion de ce dialogue interreligieux réclame que l'Église chrétienne, la nouvelle Église chrétienne, l'Église du Christ, dont les limites depuis Vatican II ne s'arrêtent plus à celles de l'Église catholique, que cette Église du Christ soit elle-même un exemple d'unité. D'où la promotion de l'œcuménisme, destinée à manifester l'union plénière des Églises à travers le sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi l'intercommunion, ce qu'on appelle l'intercommunion, donner la communion à des personnes non catholiques, est tellement chère à ces modernes. Vous savez comment le nouveau code du droit canon a introduit cette intercommunion. Je ne m'étends pas sur cet œcuménisme, parce que cette notion vous est connue, un congrès de ces synodes entiers y a été consacré. Je voudrais simplement souligner ici, pour mon propos, l'échec subi par cet œcuménisme. Malgré 1000 textes et 1000 réunions, toutes plus choquantes les unes que les autres, les églises chrétiennes, au grand dam de nos modernes, demeurent divisées. L'œcuménisme est en panne, comme le dit Jean-Paul II lui-même. Alors, pour relancer cette machine œcuménique, il faut un sacrement. De même que l'œcuménisme est là pour être le moteur du dialogue interreligieux, que le dialogue interreligieux est là pour être le moteur de la paix dans le monde, eh bien, il faut trouver un nouveau moteur capable de relancer l'œcuménisme. Et ce moteur, quel va-t-il être? La synodalité. On va chercher à définir les liens unissant les églises particulières à l'église de Rome, les diocèses, les évêques à l'église de Rome. On va définir ces liens non en partant de la vie intime de l'église, de son bien propre, de son être, mais on va définir ces liens à l'aide des schèmes de la communion. On va définir les rapports unissant les évêques au pape en fonction de l'œcuménisme et par-delà l'œcuménisme au dialogue religieux. On va dire que les églises particulières doivent vivre comme des églises sœurs, à l'exemple des différentes églises chrétiennes qui doivent vivre telles églises sœurs, à l'exemple de l'humanité entière qui doit vivre comme des frères. Apparaît ainsi ce qu'on va appeler la synodalité. On applique plus avant la grille d'instrumentalité, de sacramentalité de l'Église posée par Vatican II. Le lien unissant les évêques à Rome n'est plus à définir d'après l'angle juridictionnel, d'après une potestas, un pouvoir, mais comme sacrement de l'unité des Églises chrétiennes. Et seule cette synodalité vécue dans l'Église catholique permettra de rendre crédible sa démarche œcuménique. Et seul l'œcuménisme vécu ainsi pourra rendre crédible le dialogue interreligieux, et seul le dialogue interreligieux pourra rendre crédible la paix dans le monde, autrement dit la nouvelle évangélisation. Cette théorie de la synodalité épiscopale, tout en puisant dans l'enseignement du Concile ses principes ecclésiologiques de communion, de sacramentalité, innove cependant par rapport au Concile, au point de renverser la thèse de la collégialité promue par le Concile Vatican II. Je m'explique. Jusque-là, les rapports unissant les évêques au pape étaient considérés sous l'angle de la vie interne de l'Église. Puisqu'on touchait à la constitution même de l'Église, on touchait à son essence, à sa cause formelle. Et donc c'est la nature de l'Église qui définissait ces rapports. Et même le Concile Vatican II a gardé cette grille d'analyse. S'il introduit une notion qui tendait à démocratiser l'Église avec la collégialité, cette dernière est encore définie comme une potestas, un pouvoir sur l'Église. On ne quitte pas la logique de la hiérarchie antécédente au Concile. La synodalité, elle, va quitter cette notion hiérarchique. Elle va définir les liens unissant les évêques au pape sans se référer à aucune notion hiérarchique. Lisons quelques textes. Le ministère de Pierre, qui sert structurellement à promouvoir la synodalité de l'Église, est lui aussi de nature synodale. Sa fonction propre ne se place pas en dehors ou au-dessus du collège épiscopal. Je plaide pour une église, c'est pas moi qui parle, je plaide pour une église où nous devons nous entraîner mutuellement dans un des exercices les plus exigeants, les plus essoufflants du ministère épiscopal, donner pleine vie à une communion d'églises qui ne se réduit pas au niveau hiérarchique, mais qui assume en vérité la responsabilité ecclésiale du Laos, de tout le peuple de Dieu. C'est à nouveau le cardinal Etchegaray, intime de Jean-Paul II, qui parle. Le ministère de Pierre est lui-même de nature synodale. Nous sommes là pour promouvoir une communion des églises particulières. C'est cette même conception de la synodalité qui a animé tout le discours très remarqué du cardinal Martini au synode des évêques pour l'Europe. Ce discours a été pris comme son programme éventuel au cas où il serait élevé au souverain pontificat. Cette synodalité, nous le voyons, eh bien, le danger qui guette à vue humaine la papauté dans les décennies à venir. D'un point de vue doctrinal, il est inutile de dire combien cette thèse nouvelle de la synodalité, dans sa formulation même, s'oppose à la constitution divine de l'Église. Nous avons entendu le cardinal Echegaray refuser toute considération d'ordre hiérarchique. De même, Monseigneur Casper, secrétaire actuel du Commissariat pour l'unité des chrétiens, dira combien Vatican I a été non pas seulement un obstacle, mais une erreur grave qui a entraîné dans l'Église beaucoup de problèmes et que Vatican II n'a pas su se débarrasser de l'héritage de Vatican I et Casper de réclamer à ce qu'enfin l'Église se libère de ce boulet. Je résume là un long article de lui paru il y a 3 ans dans une revue allemande. Une partie épurée a été publiée dans la revue très officielle Communio. Cette thèse donc écarte tout aspect hiérarchique de l'Église au profit d'une communion entre frères, entre sœurs. L'idée, le mot, l'image de fraternité, de frères, de sœurs, d'église sœur, manifeste qu'il n'y a qu'un seul Père, c'est le Dieu, un Dieu lointain. On pourrait, pour juger de cette synodalité et de sa valeur théologique, s'il le fallait, reprendre ici toutes les analyses magnifiques faites par l'abbé Dulac en son temps sur la question de la collégialité. Il avait montré les différentes thèses existantes, celle d'un double pouvoir suprême, celle d'un seul pouvoir suprême, celui du collège épiscopal, le pape n'ayant de pouvoir qu'en tant que tête de ce collège. Et il avait montré de manière magnifique combien cette deuxième thèse, celle de l'unique pouvoir collégial, était ouvertement hétérodoxe. Et vous savez comment, dans les textes même du Concile Vatican II, ce fut la nota previa qui écarta cette interprétation des textes conciliaires. La nouvelle thèse de la synodalité se situe en plein dans cet unique pouvoir, celui du collège des évêques, sauf qu'en plus, elle enlève le mot pouvoir pour le remplacer par celui de responsabilité de la communion. Tout à l'heure, le cardinal Echegaray nous l'avait dit, le ministère de Pierre, qui sert structurellement à promouvoir la synodalité, est lui-même de nature synodale. Lui-même de nature synodale. Cette thèse est ouvertement contraire à la foi. Dans cette optique de la synodalité, ces tenants vont rejoindre tous ces soi-disant historiens qui ont passé le primat pontifical au crible d'une histoire relativisée. Vous savez comment Jean-Paul II lui-même a réclamé, pour promouvoir justement cet œcuménisme, que les théologiens découvrent une forme nouvelle du primat pontifical, excusez l'erreur, du ministère de Pierre et non pas du primat, sans renoncement aucun à l'essentiel de sa mission. Ce simple mot est une invitation implicite à relire l'histoire, dégager l'essentiel des formes historiques. Et c'est ainsi que des théologiens n'hésiteront pas à écrire que le primat de juridiction a été une invention humaine réalisée au cours de l'histoire. Je citerai ici l'ouvrage du père Dantin, Les privilèges des papes devant l'écriture et l'histoire, publié aux éditions du Cerf, juste après l'invitation de Jean-Paul II. Ouvrage très répandu en France, préfacé par le directeur du Centre Saint-Irénée à Lyon, centre important, mais combien moderne. Selon le père Dantin, 20 siècles d'histoire humaine ont modifié la nature et l'exercice de la primauté pontificale. En effet, ce que Jésus a voulu fonder n'est pas une monarchie tempérée, c'est une collégialité de frères égaux entre eux. Pierre est le porte-parole, l'animateur, le gardien de cette unité, le premier parmi les égaux. Jésus se garde bien d'enlever aux autres ce qu'il donne à Pierre. Vous savez que Jean-Paul II lui-même a expliqué pourquoi et comment il utilisait le terme de successeur de Pierre. Nous-mêmes, nous y lisons la marque du magistère suprême, pas du tout. Lui-même a dit, c'était en 1984, préférer ce terme parce que Pierre, parmi les apôtres, avait la charge de l'unité du collège apostolique. Et que lui-même, Jean-Paul II, se faisant le promoteur de l'unité, se trouvait beaucoup plus dans l'expression « successeur de Pierre » que dans celle de « vicaire du Christ ». Le père Dantin n'est pas une référence, malgré sa notoriété en la matière. Citons des cardinaux. Après la rupture de 1054, donc entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, Orient et Occident ont développé des pratiques ecclésiales différentes. Maintenant, il est primordial et urgent que les Églises approfondissent ensemble le vrai rôle de l'évêque de Rome. La réconciliation de nos Églises passe par la réconciliation de nos interprétations de l'Écriture et de l'Histoire. Les textes sur le ministère pétrinien doivent être relus avec le seul souci de retrouver une communion originelle qui perdure. Car l'unité de l'Église n'est pas être reconstruite, mais simplement redécouverte. Tout est dit. Synodalité, danger pour la papauté de demain, destructrice également de la papauté d'hier. Triste bilan, me direz-vous peut-être, au sein d'un congrès qui voudrait donner des perspectives pour le XXIe siècle. J'espère cependant ne pas avoir fait une œuvre purement négative. Il me semble en effet que l'analyse des causes d'un mal apporte déjà la moitié du remède. C'est pour avoir abandonné sa fonction magistérielle au profit de la nouvelle évangélisation que la papauté se trouve aujourd'hui menacée. Pour remédier à ce mal, les papes du XXIe siècle se devront d'être des papes de magistère. Renonçant à ce nouvel évangile humaniste et non évangélique, leur tâche première sera d'enseigner la foi catholique avec autorité. Persuadé que cet enseignement magistériel est le meilleur moyen de ramener au bercail les brebis perdues d'Israël. Bon pasteur plutôt que mercenaire, il leur faudra également prendre la défense d'un troupeau menacé, ce qui ne peut se faire sans la condamnation des erreurs contraires à la foi. En la matière, l'un des domaines prioritaires sera sans doute celui de l'ecclésiologie, mise à mal depuis 40 ans. Nous savons que la papauté ne traverse pas là sa première crise. Nous savons qu'elle en ressortira indemne, car les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Et donc cette thèse de la synodalité, pour menaçante qu'elle soit aujourd'hui, n'en est pas moins vouée à l'échec. Mais il reste que Dieu aime à passer par des hommes pour accomplir ses œuvres. La menace présente retentit donc tel un pressant appel à ceux qui ont pour charge de garder la foi, les évêques. À l'exemple du travail accompli par Saint Pie X, il est urgent d'analyser plus avant cette nouvelle théologie pour mettre en pleine lumière les thèses foncièrement erronées, passibles de condamnation. Ce serait, là aussi, je crois, faire œuvre de reconstruction. Cette reconstruction à laquelle nous sommes tous appelés. Je vous remercie de votre attention.